Les grands événements du Collège de France.
Bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Collège de France pour cette conférence consacrée à un projet singulier et passionnant qui mêle une enquête historique sur le cas de l'agriculture irriguée en Lombardie médiévale à une réflexion sur les enjeux mêmes et sur le cadre même de cette recherche, je dirais même une réflexion sur le champ de recherche de ce projet qu'on pourrait nommer les humanités environnementales, mais nous allons en reparler avec les deux chercheurs qui seront présents. Donc c'est un projet qui est encore en cours, il a débuté en septembre 2024, donc aujourd'hui nous allons aborder des résultats de recherche, mais aussi des hypothèses, des interrogations. Nous essaierons aussi de comprendre comment se fait cette recherche. Cet événement, ce soir, s'inscrit dans le cycle de conférences à la recherche d'un avenir commun durable. Ce projet est en effet soutenu par l'initiative Avenir commun durable. C'est une initiative qui est née en 2021 du désir, de l'envie de plusieurs professeurs du Collège de France d'agir face aux enjeux climatiques et de questionner ces différentes problématiques. Et pour ce faire, Avenir commun durable bénéficie du soutien de la Fondation du Collège de France, de ses grands mécènes, la Fondation Covéa et Total Energy, et de ses mécènes Forvia et Saint-Gobain. Donc le projet qu'on évoque aujourd'hui mêle, comme je le disais, une enquête historique à une réflexion épistémologique dans le but d'historiciser et d'interroger le rapport des sociétés pré-industrielles à leur environnement. Ce projet est mené par Louise Gentil, sous la direction de Patrick Boucheron et de François-Xavier Fauvel. Et nous avons la chance de recevoir Louise Gentil et un peu plus tard Patrick Boucheron, qui est coincé dans le métro, mais qui arrive d'ici quelques minutes. Donc je vais présenter mes invités, la moitié de mes invités. Donc Louise Gentil, vous êtes docteur en histoire médiévale, vous êtes spécialiste de l'Italie au Moyen-Âge. Votre thèse portait sur la documentation d'une abbaye cistercienne milanaise entre le XIIe et le XIVe siècle, et vous êtes aujourd'hui postdoctorante au Collège de France. Patrick Boucheron, qui arrive d'une minute à l'autre, est historien, il est spécialiste du Moyen-Âge et professeur du Collège de France. Il est titulaire de la chaire Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle, et ce depuis 2015. Il est aussi éditeur, l'auteur de nombreux ouvrages, et parmi ses dernières publications, on peut citer Le temps qui reste, qui est un ouvrage dans lequel il évoque notamment l'urgence climatique actuelle. François-Xavier Fauvel, qui n'est pas là ce soir, co-dirige ce projet. Il est lui aussi professeur du Collège de France et titulaire de la chaire Histoire et archéologie des mondes africains depuis 2019. Donc, comme je le disais, le point de départ du projet, c'est une enquête sur le cas de l'agriculture irriguée en Lombardie. La Lombardie, qui est une région du nord de l'Italie, entre le XIIIe et le XVIe siècle. Et Louise Gentil, donc je m'adresse à vous car vous menez cette enquête. Pour entrer en matière et qu'on puisse comprendre, se faire une idée de cette région à cette époque, pouvez-vous nous dire, selon l'avancée de vos travaux, bien sûr, mais pouvez-vous nous dire ce qu'on sait de l'organisation de cette société et de l'activité agricole à ce moment-là ?
Alors oui, tout à fait. C'est une vaste question, donc je vais essayer de répondre de manière un petit peu générale, de vous dresser un petit peu un tableau pour que vous réussissiez à vous projeter. Alors tout d'abord, la question de la Lombardie pose l'enjeu de la pédologie. Je vais peut-être montrer juste la seconde carte. Ouais. Voilà. Donc là, vous avez une carte de situation générale de l'espace sur lequel je travaille, qui est donc situé dans le triangle entre Milan, Pavie et Lodi. Et donc cet espace-là, il est caractérisé par une pédologie particulière. Donc la pédologie, qu'est-ce que c'est ? C'est la structure du sol. Donc pour le dire rapidement, donc vous voyez que le Po traverse l'Italie, le nord de l'Italie d'ouest en est. Et exactement au niveau de la ville de Milan, à peu près à ce niveau-ci, se situe un changement structurel dans le sol, c'est-à-dire que vous avez une bipartition entre ce qu'on appelle la haute plaine et ce qu'on appelle la basse plaine. La haute plaine, c'est une zone de terre qui sont plutôt sèches et calcaires, alors que la basse plaine, c'est une zone de terre qui est plus argileuse. Cette structure du sol, elle permet une gestion particulière des eaux, c'est-à-dire qu'il faut s'imaginer que les eaux qui arrivent des Alpes s'infiltrent très rapidement dans la haute plaine, ce qui explique qu'elles soient sèches, alors qu'elles ont une tendance à stagner, pour le dire très vite, dans la basse plaine. Et donc du coup, dans la basse plaine du Pô, qui est située, donc pour l'endroit qui nous intéresse, entre Milan et le Pô, que vous avez ici, donc dans cet espace-là, vous avez des structures pédologiques qui sont spécifiques et qui créent cet environnement humide et donc apte à une agriculture qu'on pourrait qualifier d'irriguée compte tenu des structures qui sont mises en place. Ensuite, pour ce qui est de l'organisation générale de la société, il n'y a pas une organisation générale de la société entre 13e et 16e siècle à cet endroit-là. Pour ce qui est de l'agriculture, ce que je voulais juste vous préciser, c'est qu'il y a une séparation entre les propriétaires des terres, les tenanciers et les paysans. C'est-à-dire que ce ne sont pas les mêmes personnes qui sont propriétaires, qui organisent la gestion agricole et qui travaillent effectivement dans les champs. Et donc, pour aller un petit peu plus dans la précision, les grands propriétaires de terres, entre 13e et 16e siècle, ce sont très majoritairement des institutions ecclésiastiques. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est à partir de ces fonds-là que je travaille.
D'accord, bon, on y reviendra. Ouais. Pour ce qui est de l'agriculture irriguée, est-ce qu'on pourrait rentrer un petit peu plus dans le détail? J'ai cru comprendre qu'il y avait une organisation assez intéressante.
Oui, absolument. Et dans ce cas-là, je vais peut-être revenir...
Ouais. Ah oui, pardon. Moi, je vous...
plutôt à ce qu'il y avait juste avant. Donc, pour ce qui est de l'agriculture irriguée, on peut se poser la question d'abord de qu'est-ce qu'on produit. Donc, pour l'usage de l'irrigation vise à multiplier la production de foin en Lombardie, en tout cas entre 13e et 15e siècle. Donc, pourquoi est-ce qu'on produit du foin? Notamment pour nourrir des bêtes d'élevage, mais aussi pour nourrir les nombreuses cavaleries militaires qui sillonnent la région. Donc là, on a un lien entre la production de cette économie régionale et la production qu'on pourrait dire européenne, ou en tout cas l'économie européenne, compte tenu du fait que ces bêtes d'élevage, elles servent non seulement à produire de la viande, mais surtout à produire de la laine, qui elle-même sert à tisser des draps, qui eux font partie de ce qu'on appelle le grand commerce européen, si on veut le dire vite, à la période médiévale. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on produit du foin dans cet espace-là. Et si on regarde ce document-là, hop là, je me mets là parce que... Donc là, vous avez le cours du Lambro, donc qui est un des fleuves hop, que vous pouvez retrouver ici, qui est donc figuré ici dans un document de la fin du XIVe siècle. Donc vous avez le cours central qu'on dérive par ces dérivations. Vous avez ici les moulins qui sont présents, et donc vous avez ce qui est noté sur ces petits carrés rouges, c'est le nom des propriétaires de ces moulins. Et vous avez ici des dérivations secondaires qui partent, et donc ces trappes qui sont ici figurées en rouge, ce sont les trappes qui permettent de réguler les tours d'irrigation de cette agriculture irriguée.
D'accord. Ce que je trouve très intéressant dans ces découvertes et aussi plus globalement, c'est que grâce à ces découvertes et aussi aux connaissances que vous avez sur la période, vous déconstruisez certaines idées reçues sur le rapport qu'avaient les sociétés médiévales à leur environnement. Donc on parle ici de la société lombarde, mais peut-être plus globalement les sociétés européennes, vous allez nous le dire. On a par exemple tendance à croire qu'avant l'industrialisation, l'exploitation agricole était forcément durable, vertueuse. Mais j'ai cru comprendre que ce n'était pas toujours le cas.
Absolument. Alors déjà, un des présupposés qu'on oublie souvent, c'est que l'Europe est déjà entièrement anthropisée dès le Moyen-Âge central, période sur laquelle je travaille. Et notamment, pour vous donner une image générale, si on parle du couvert forestier, le couvert forestier au XIIIe siècle est moins important que ce qu'il est aujourd'hui en Europe. Donc du coup, on a aussi un usage qui est très différent des différents espaces qu'on pourrait qualifier d'incultes. Les espaces notamment de prés, de bois ou de landes sont utilisés de manière parfois extrêmement intensive, alors qu'aujourd'hui, quand on se figure des espaces de landes et de prés, on ne se figure pas forcément les usages qui vont avec. Il faut se figurer que, y compris dans des forêts et dans des forêts denses, il y a des activités. Donc moi, pour ce qui m'intéresse, c'est plutôt des activités d'élevage, mais il y a aussi des activités qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'industrielles, pour le dire vite, notamment la fabrication de charbon, qui se fait aussi dans ces forêts et qui est documentée dès le haut Moyen-Âge.
Ce que je trouvais intéressant, c'est aussi qu'il y a l'idée, j'ai l'impression quand même, de stratégie économique, en fait, dès le Moyen-Âge. Est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots?
Oui, absolument. Donc, là encore, une des idées reçues que l'on peut avoir sur le Moyen-Âge, c'est que c'est une période durant laquelle les paysans auraient subi les aléas naturels de manière très importante et qu'on faisait une production économique un petit peu comme on le pouvait. Or, ce n'est pas le cas. On peut voir qu'il y a des stratégies économiques qui sont mises en place, notamment par les grandes institutions ecclésiastiques qui effectuent des investissements. Donc, moi, les investissements sur lesquels je travaille, ce sont des investissements de canalisation et d'irrigation, des investissements qui nécessitent la mobilisation de sommes véritablement importantes et qui parfois se font en lien entre plusieurs institutions ou entre une institution ecclésiastique et une commune à laquelle elle est particulièrement liée. Et donc on a véritablement des stratégies d'investissement économique qui sont mises en place avec derrière des logiques de production. C'est-à-dire que quand on creuse un canal, en général, et c'est parfois même noté dans les contrats qui les précèdent, on sait que ce canal a pour but, par la suite, d'apporter de l'eau à un endroit afin de pouvoir irriguer telle ou telle terre.
Vous parliez là de contrats, et ça m'amène à ce que je voulais qu'on évoque un peu après. Je voulais qu'on parle de la manière dont vous faites cette recherche, car donc pour mener cette enquête, pour acquérir les connaissances qu'on est en train d'évoquer, j'aimerais comprendre comment vous procédez, donc à partir de quelles sources vous travaillez, peut-être quelle est votre méthodologie. Ce serait très intéressant d'en savoir un peu plus.
Alors tout à fait. Pour résumer les types de sources que j'utilise, il y en a trois grands types. Tout d'abord, ce qu'on appelle les sources documentaires et qui, dans mon cas, sont des sources notariales. Ça veut dire que ce sont des actes d'achat, de vente, de location de terres en grande partie, qui parlent donc de la manière dont ces parcelles sont mises en valeur, éventuellement du travail qui a lieu sur ces parcelles. Donc ça, c'est pour la catégorie des sources documentaires qui sont donc instrumentées par des notaires dès le XIe siècle en Lombardie. Ensuite, il y a toute la catégorie de ce qu'on appelle les sources normatives, dans laquelle on peut faire rentrer l'ensemble des corpus de loi, pour le dire très vite. Et ce qui m'intéresse particulièrement, ce sont donc les statuts. Les statuts, c'est un groupe documentaire qui est produit à la fois par les grandes communes urbaines, qu'on connaît le mieux pour la zone étudiée, Milan, Pavie et Lodi. On en conserve plusieurs dizaines, mais également par des plus petites communes rurales, car la structuration communale est très diffuse en Lombardie. Et donc, du coup, ce sont des normes qui régissent, notamment pour ce qui m'intéresse, l'usage des communs, c'est-à-dire qui peut accéder à tel pré, à telle forêt, qui peut accéder à telle voie d'eau et à quelles conditions, qui peut dévier telle voie d'eau, qui peut tirer de l'eau de tel canal, à quel rythme et quel jour de la semaine. Voilà, ça va jusqu'à ce degré de précision. Et la dernière documentation qui m'intéresse, et vous en avez une représentation juste derrière moi, ce sont des représentations illustrées. Elles sont beaucoup plus rares en quantité. Les sources documentaires et les statuts, on parle de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de documents quand on prend la période 13e, 16e siècle sur cette région. Au contraire, les représentations illustrées sont plus rares. On en compte un petit peu moins d'une centaine. Vous avez ici, donc ça c'est une représentation illustrée gestionnaire, c'est-à-dire qu'elle est produite par l'institution qui s'intéresse en l'occurrence à ce cours d'eau. Vous avez aussi des représentations illustrées qui sont issues de procès, quand il y a des tensions sur, notamment pour ce qui m'intéresse, des îles ou des bras de certains des fleuves. Dans ce cas-là, on va figurer ces fleuves ou ces rivières et on va adjoindre ces cartes au procès. Et la dernière de ces représentations illustrées, dont je vous ai pas mis d'exemple ici, c'est le Libro dei Prati du monastère sur lequel j'ai travaillé et qui l'a produit des dessins de chacune des parcelles de prêt sur lesquelles ils ont des droits et des propriétés. Et donc vous avez des dessins de parcelles qui sont réalisés à la main et qui sont inscrites dans le réseau vière et dans le réseau de canalisation avoisinant.
D'accord. Et à quoi ressemble donc votre travail de chercheuse ? Dans les faits, qu'est-ce que vous faites ? C'est la question qu'on se pose.
Qu'est-ce que vous faites avec les sources ? Alors, pour les représentations, alors je vais peut-être commencer dans l'ordre de ce que j'ai traité. Pour ce qui est des sources documentaires, il faut donc tout d'abord commencer par les lire. Pour ce faire, il faut nécessairement aller aux archives parce que les sources sur lesquelles je travaille ne sont ni numérisées ni éditées. Donc voilà, donc c'est de la lecture de sources dans lequel je vais chercher à la fois à relever des toponymes, à relever éventuellement des tracés, car pour certains canaux, on va avoir des descriptions du tracé de l'ensemble du canal. Pour ce qui est des statuts, c'est à peu près la même chose, c'est juste qu'on ne cherche pas le même type d'information, mais là encore, c'est de l'ordre de la lecture. Mmh. Pour ce qui est des représentations illustrées, et je sais que vous vouliez en parler, donc on va pouvoir faire le lien juste après, je peux notamment resituer ces représentations de manière... géoréférencée, le mot m'échappait, de manière géoréférencée dans des cartes que je produis. Et donc ça, c'est la dernière utilisation que je fais de ces sources.
D'accord. Et c'est cela, un système d'information géographique ?
Oui, absolument. C'est cela.
Donc, Madame Gentil utilise un système d'information géographique et va nous en dire quelques mots. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est ? Quel est l'intérêt d'un système d'information géographique et comment vous procédez un peu plus précisément ? Ce que cela permet aussi ?
Alors, un système d'information géographique, donc vous en voyez ici un extrait, enfin c'est une extraction à proprement parler, c'est une base de données cartographique. C'est-à-dire que plutôt que d'organiser des données juste d'un point de vue textuel ou en les codant uniquement, on va pouvoir organiser des données en les spatialisant. Et donc un SIG, c'est juste une manière de spatialiser des données. Et donc en gros, on a une représentation terrestre et on va pouvoir situer. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est notamment de géolocaliser des anciens documents, donc le document dont je vous ai montré l'exemple précédemment, les parcelles dont je vous ai évoqué également la présence dans l'un des autres documents sur lesquels je travaille. Donc voilà, donc on peut fixer ces documents-là et donc les rendre accessibles à terme. C'est ça le but de la manœuvre. Et il est aussi possible de localiser des documents écrits, c'est-à-dire qu'on peut localiser les codes d'archives à partir du moment où ces codes renvoient à un document qui parle d'une commune, d'un lieu dit dont on connaît la localisation. Il est tout à fait possible de créer une fiche propre à ce document, éventuellement de transcrire l'intégralité du document et de le lier à la commune à laquelle il se rapporte. Et donc comme ça, on peut faire des études spatiales et on peut spatialiser la documentation et la projeter dans un espace qui est une représentation spatiale actuelle, qui n'a rien à voir avec la représentation que les médiévaux pouvaient avoir de ce dit espace.
D'accord. Et ce qui fait la particularité de ce projet, c'est que donc vous construisez ces cartes, vous menez cette enquête, mais en même temps, vous adoptez une position réflexive. C'est très intéressant parce que vous posez des questions méthodologiques à mesure que vous rencontrez un peu des limites, des difficultés. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelles sont donc les limites, les enjeux principaux que vous rencontrez peut-être actuellement ?
Absolument. Alors, c'était une volonté dès le départ, à partir du moment où on a conçu ce projet, à la fois parce que l'ensemble de ces problématiques environnementales sont en ébullition dans de très nombreuses disciplines, mais je crois qu'on évoquera le sujet juste après. Tout d'abord... la question de l'environnement pose des problématiques partagées qui imposent d'avoir des éclairages qui sont différents. Donc moi, dans mon travail d'historienne, je rencontre certaines limites qui sont liées à ma documentation. Tout d'abord parce que cette documentation, elle est évidemment lacunaire, parce que cette documentation ne rend pas compte de l'ensemble des réalités qui moi-même m'intéresseraient et que je chercherais à documenter. Donc par exemple, sur la question de l'agriculture irriguée, la documentation sur laquelle je travaille ne permet pas de documenter les conditions de travail, l'organisation précise du travail telle qu'elle s'effectue. Je ne suis pas capable de l'atteindre. C'est aussi très difficile de documenter la petite propriété. C'est-à-dire que les archives qu'on a conservées massivement, ce sont des archives des grandes institutions. La petite propriété foncière, elle existe, on le sait, mais elle est difficile à documenter, non pas parce qu'elle n'a pas produit de documents, mais juste parce que ces documents n'ont pas été conservés. Donc ça, c'est aussi des limites qui existent. Et ensuite, des limites, et pour faire un petit peu un lien avec la question de l'interdisciplinarité, des limites limites, elles sont parfois liées même aux espaces dans lesquels on travaille. Et donc là, en l'occurrence, ce triangle entre Milan, Pavie et Lodi, c'est un espace dans lequel il est plutôt difficile de faire de l'archéologie pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un espace qui est encore aujourd'hui extrêmement anthropisé et toujours extrêmement fertile d'un point de vue agricole. Donc c'est un espace dans lequel il y a un dynamisme d'implantation des populations qui est vraiment très important, et dans lesquels l'entièreté des espaces sur lesquels je travaille sont toujours des espaces agricoles qui ont été profondément remaniés. Et donc faire de l'archéologie dans ces situations-là, c'est une situation qui est plus difficile que dans les situations de déprise, pour le dire vite. Donc c'est possible, mais c'est plus difficile. Donc voilà, il y a des limites qui sont inhérentes à l'organisation réelle de cet espace-là.
D'accord, merci beaucoup. Vous commenciez à évoquer la question de l'interdisciplinarité. Ça me permet de prendre encore plus de recul sur vos travaux. Donc voilà, on est encore plus loin. Et c'est très intéressant le regard que vous portez sur ces travaux, parce que donc l'étude des rapports des sociétés à leur environnement, l'étude des problématiques environnementales, je crois que vous le disiez, traverse toutes les sciences sociales. Donc les questions qu'on vient de se poser, elles pourraient être posées donc en histoire, mais aussi en archéologie, en philosophie, en anthropologie, c'est ce que vous m'expliquiez un peu plus tôt. Et certains parlent alors de la constitution d'un nouveau champ d'études, les humanités environnementales. Donc, est-ce que vous pourriez définir un peu ce champ d'études et puis nous expliquer comment et quand il s'est constitué ?
Alors, moi, en tout cas, la manière dont je l'utilise personnellement, et je vais juste m'engager personnellement sur ce sujet, moi, pour moi, c'est une manière d'englober globalement l'ensemble des disciplines qui, actuellement, se posent des questions environnementales et qui ont intégré les problématiques environnementales à leur questionnaire. Donc, les humanités ont été profondément, comme l'ensemble des sciences sociales, profondément bouleversées par les questions, parce que les chercheurs sont des humains de leur temps, par les questions climatiques. La question du paléo-environnement, c'est une question qui a émergé dans les années 50-60 et qui actuellement est très fortement renouvelée depuis les années 90, à la fois compte tenu du fait qu'on a énormément de nouvelles données qui sont produites parce qu'on a des outils qu'avant on n'avait pas.
Le paléo-environnement ?
Ouais, le paléo-environnement, c'est-à-dire ouais, absolument. C'est l'ensemble des études qui s'intéressent aux environnements anciens. Voilà, donc ça peut être des environnements extrêmement anciens, et dans ce cas-là, donc moi, c'est pas du tout mon champ de compétences, donc qui précède les sources historiques, et donc dans ce cas-là, on parle plutôt d'études des calottes glaciaires, d'études de sédiments sur le temps très très long. Mais pour moi, ce qui m'intéresse, et pour l'ensemble des gens avec lesquels je suis amenée à travailler, ce qui nous intéresse, c'est plutôt d'essayer de lier ces nouvelles données à des moments qui sont également documentés par les sources historiques. Et donc là, ce qui nous intéresse avec nos collègues archéologues notamment, c'est d'essayer de mettre en lien des documentations différentes. Donc par exemple, les sources historiques nous renseignent, donc les sources écrites nous renseignent sur certaines céréales, sur certaines plantes qui sont cultivées. Et donc du coup, on a des attestations écrites de types de plantes qui sont cultivées et qui sont notamment l'objet de redevances ou de descriptions qu'on trouve de manière importante. A contrario, ou en tout cas pour compléter, les archéologues, eux, ils sont capables de dresser des diagrammes palynologiques dans certains espaces, et donc de nous dire, à ce moment-là, qu'on ait des sources écrites ou pas, on est capable de dire qu'il y a tel pollen dans cet espace, et donc qu'il y a telle et telle plante qui sont effectivement soit cultivées. Ils sont aussi capables de nous dire précisément quelles sont les plantes qui sont cultivées, et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir si on a effectivement des informations qui sont concordantes, des informations qui ne sont parfois pas concordantes, et d'essayer de faire ensemble.
D'accord. On se parlait une fois dernière, et j'ai cru comprendre que l'histoire des humanités environnementales, on dit que c'est un champ de recherche qui s'est constitué récemment, peut-être ces 20 dernières années, j'ai cru comprendre, mais il y a une histoire de l'histoire environnementale qui remonte à, je crois, aux années 70.
Zone oui, 4, bah, en fait, ça dépend de ce qui nous intéresse. En France, non, mais en France, on peut, en gros, le premier à avoir travaillé beaucoup sur la question de l'histoire du climat, c'est Emmanuel Leroy-Ladurie. C'est le premier grand nom à s'être intéressé à cette question. Mais en fait, des gens qui se sont posés la question des anciens climats, on en trouve dès le 19e siècle. Mais par contre, pour ce qui est de l'histoire environnementale comme champ précis, c'est un champ qui est né aux États-Unis, effectivement entre les années 50 et les années 60. Les premières productions qui sont liées à ça, donc aux États-Unis, c'est un champ qui s'est constitué autour de la question de l'histoire des parcs nationaux. En tout cas, les premières productions historiographiques, elles sont liées à cette question de l'histoire des parcs nationaux. En France, les premières productions, on pourrait les dater plutôt des années 90-2000. En tout cas, les premières lectures et applications de ces questions-là dans le champ historique. Et effectivement, depuis une vingtaine d'années, il y a énormément de gens qui se réclament de cette question-là et qui ont parfois des approches très différentes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, effectivement, utilisent les proxys environnementaux. Donc là, je vous parlais des pollens. Ça peut être également de la dendrochronologie, ça peut être des études de sédiments, etc. Mais il y a aussi des gens qui font de l'histoire environnementale et qui n'utilisent pas du tout les proxys environnementaux, mais qui relisent autrement des sources historiques et qui utilisent uniquement, pour le dire vite et non pas de manière dépréciative, mais juste qui relisent à la lumière des problématiques environnementales, des sources écrites d'une manière différente.
J'ai cru comprendre aussi que ce terme, les humanités environnementales, était quand même un peu mis en débat encore dans le monde de la recherche. Oui, je vois votre regard, vous avez l'air de... Pourriez-vous nous décrire un petit peu quels sont ces débats?
C'est pas une question très très chaude en ce moment. Enfin, je veux dire, je crois pas que ça aiguise particulièrement, que ça attise les foules. Mais en tout cas, effectivement.
Vous n'appréciez pas.
non, mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui est actuellement au centre d'un débat conceptuel intense. Et d'ailleurs, moi, je pense que ça devrait l'être. En fait, on devrait se poser la question des termes et des outils qu'on utilise pour mener ces analyses. En général, on va plutôt parler de... Enfin, en tout cas, en histoire, on va plutôt parler d'histoire environnementale. On ne va pas forcément se réclamer des humanités environnementales. En archéologie, c'est pareil. On a même des collègues archéologues qui se définissent autrement, enfin, qui disent qu'ils sont archéozoologues, qui sont archéopalynologues, enfin, qui ont des définitions bien plus précises sur les questions techniques qu'ils traitent au jour le jour. Voilà, ça dépend aussi un petit peu des outils qui sont mis en place. Moi, en tout cas, je l'utilise volontairement, justement pour dire qu'il y a un enjeu à faire ensemble des sciences sociales et à essayer de mettre en commun des outils et des concepts.
Vous parlez de cet enjeu à faire ensemble. Il semble utile, voire peut-être nécessaire pour aborder les problématiques environnementales. L'enjeu de l'interdisciplinarité, donc l'interdisciplinarité, c'est-à-dire la collaboration de plusieurs disciplines sur un même sujet. L'interdisciplinarité, selon vous, sur ces questions, c'est nécessaire, en fait? On ne pourrait pas penser ces questions autrement?
Bah, en tout cas, je pense que c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, il y a tellement à faire que malheureusement, on n'est pas obligé de faire de l'interdisciplinarité. C'est-à-dire que chacun dans nos champs, on peut déjà, ouais. On peut déjà faire énormément et c'est déjà très bien. Mais je pense que la question de la discussion préalable des concepts qu'on utilise et des outils qu'on met en place, c'est une question qui est intéressante. Et pour ma part, c'est pour cette raison que je me tourne vers le SIG et vers l'utilisation des cartes, parce que pour moi, ça pose la question de l'interopérabilité et de la production collective des données. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut vraiment travailler avec des archéologues sur un champ d'études? Et ben, notamment en partageant des outils avec eux et en mettant au point des choses sur lesquelles on peut travailler ensemble. Et donc, notamment, les bases de données spatialisées sont un moyen de mettre ensemble des données. Et donc, moi, par exemple, j'ai récupéré certaines couches du SIG sur lequel je travaille. auprès de certains ingénieurs qui travaillent sur l'histoire des réseaux de canalisation, auprès de certains archéologues qui, eux, produisent des données stratigraphiques au moment où ils font leur fouille, c'est-à-dire que, eux, c'est une manière d'archiver leurs données de fouille que de procéder par un SIG. Et ensuite, pour ce qui est du lexique notamment, je pense là plutôt notamment aux anthropologues et aux philosophes qui ont évidemment beaucoup travaillé sur les questions de nature et d'environnement, là encore pour le dire de manière très vite et à la hache ces dernières années, sur les questions de la bipartition nature-culture éventuelle de son renouvellement entre donc nature-culture, humain, non-humain, et donc de savoir avec quel terme on s'exprime, avec quel terme est-ce qu'on utilise dans les textes qu'on produit, ça nous permet véritablement d'essayer d'avancer ensemble.
Mais j'imagine que quand même il y a des... Je sais pas, pour être un peu pessimiste, mais j'imagine que c'est pas simple en fait de collaborer même entre sciences sociales, mais même parfois entre sciences sociales et sciences expérimentales. Comment on fait pour travailler ensemble? J'imagine qu'il y a quelques difficultés, quelques enjeux.
Oui, alors déjà il y a des difficultés de réussir à parler de la même chose au même moment. Uh-huh. C'est-à-dire, et donc notamment la question des outils. Il y a notamment des archéologues qui sont spécialistes. Enfin, moi par exemple, je sais lire un diagramme de palynologie, mais je ne sais pas produire un diagramme de palynologie. Et donc, si je ne suis pas consciente de la manière dont on prélève des pollens, de la manière dont on peut mener une étude dendrochronologique, je ne peux pas comprendre la manière dont moi je peux l'utiliser pour produire des données historiques dans mon récit historique. Et donc la question de réussir à comprendre les procédés méthodologiques des autres sciences avec lesquelles on travaille, c'est une question qui est importante. Pour ce qui est de la question du lexique, avec les anthropologues, c'est plutôt une question de lecture. En général, en histoire, et c'est parce qu'on a aussi une volonté un petit peu hégémonique, et on essaye de s'en amender, mais il n'empêche que c'est quand même un petit peu le cas. Il y a une tendance à la récupération de nombreux concepts qui sont forgés ailleurs et qui sont parfois employés de manière un peu lâche dans l'ensemble des productions. Et donc se poser précisément la question de à quel moment est-ce que ce concept a été produit, est-ce que je peux vraiment l'utiliser dans le cadre de mes recherches et pourquoi est-ce que je l'utilise ainsi et comment est-ce que je l'applique, c'est vraiment des questions qu'il est intéressant de se poser.
Et vous me disiez que vous préparez avec Monsieur Boucheron et Monsieur Fauvel une table ronde.
Absolument.
En juin. Sur ces questions, pourriez-vous nous en parler un tout petit peu? Quel est le but? Bon, on comprend quels sont les enjeux, mais quels sont vos buts?
Alors, l'enjeu principal, c'est d'essayer de réunir des spécialistes très différents, et justement de réussir à les faire parler ensemble. Le but, c'est ce dont je vous parle un petit peu depuis tout à l'heure, c'est-à-dire essayer de discerner des directions communes, c'est-à-dire quel effort est-ce qu'on doit mener? Dans quelle direction est-ce qu'on doit continuer de chercher, éventuellement de manière prioritaire? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des enjeux sur lesquels est-ce qu'on a suffisamment avancé? Et pour ce qui est de la journée du 4 juin, vous êtes les bienvenus. Il y aura à la fois une réflexion théorique avec des historiens, des archéologues et des philosophes sur ces questions d'environnement. Et il y aura aussi une grande table ronde de retour de pratique, où il y aura, là encore, philosophes, archéologues et historiens qui nous parleront de leur terrain de recherche et de la manière dont, eux, ils ont appliqué ces problématiques-là sur leur terrain de recherche. Et donc, il y aura à la fois des spécialistes du désert égyptien et des spécialistes du nord de la France. Donc, ce sera intéressant, compte tenu du fait que les terrains sont différents, les méthodes peuvent aussi être différentes. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye de créer cette rencontre.
D'accord. Alors, je voulais poser la question directement à M. Boucheron, mais il n'est pas là. Je ne sais pas s'il va venir, finalement. Donc, je vais vous la poser de manière un peu détournée. Donc, M. Boucheron et M. Fauvel donc, co-dirigent vos travaux.
Oui.
Est-ce que vous pourriez m'expliquer, pour eux, un petit peu, comment leurs travaux, leurs regards nourrissent votre réflexion, pour qu'on comprenne un peu ce que c'est la direction, la co-direction d'un tel projet. Qu'est-ce qu'ils apportent ?
Alors, je ne vais pas parler à leur place.
Oui, désolée.
Je ne vais pas parler à leur place et je pense que Patrick va arriver.
Ah.
Mais pour moi, qu'est-ce que ça m'apporte ? Bah, alors déjà, je parlais juste avant de la question des spécialistes et des spécialistes de différents espaces. C'est le cas de Patrick Boucheron et de François-Xavier Fauvel, d'avoir des espaces de spécialité qui sont si différents. Donc je le rappelle pour ceux qui éventuellement les connaîtraient pas, Patrick Boucheron, il est spécialiste à l'origine de la Lombardie, donc là on voit plutôt le lien direct. Mais François-Xavier Fauvel, il est spécialiste d'histoire africaine, et donc du coup ça, notamment moi, ça m'a poussé à essayer de réfléchir sur les questions d'irrigation. Nos collègues qui travaillent sur les espaces hyper arides, les espaces oasiens, et qui travaillent sur l'irrigation, notamment au Maghreb, n'ont pas du tout la même manière d'aborder les questions d'irrigation que des gens qui travaillent sur l'Europe occidentale, et c'est bien normal compte tenu de la différence des milieux. Et donc notamment les travaux sur la question de l'irrigation en milieu hyper aride sont très stimulants, parce que en réalité ils sont en général bien plus avancés, enfin en tout cas du point de vue structurel et du point de vue archéologique. C'est des travaux sur lesquels il y a une réflexion ancienne. Ça fait déjà plus de 50 ans qu'il travaille sur ces questions, et donc on n'est pas du tout au même stade de réflexion. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur...
Pardon, donc là vous nous parliez du travail de Monsieur Fauvel.
Oui, absolument.
C'est ça ? D'accord.
Et alors, donc Patrick Boucheron, peut-être que je vais en parler, il va arriver comme...
Ça va le faire venir,
voilà,
peut-être
c'est ça.
Que ça va le faire venir.
Lui, pour le coup, il a travaillé dans sa thèse sur la question de la canalisation en Lombardie, mais vu non pas du point de vue environnemental, comme moi j'essaye de le traiter aujourd'hui, mais vu du point de vue des pouvoirs. Ben voilà, je savais que ça allait le faire venir. On pourrait croire que ça s'était fait exprès, mais non.
Oui, ça semble être une mise en scène.
Promis, ceci n'a pas été répété en amont. Et car on me demandait sur quoi est-ce que tu travaillais en Lombardie.
Bonjour Monsieur Boucheron.
Bonjour.
Pas de problème. Donc j'étais en train de demander. Moi, je vais vous demander directement. Alors vous sur ce projet, vous arrivez donc en soutien.
Du Pérou. Je viens juste du Pérou.
Tout était
bien, parfaitement calibré. J'étais au Japon, ensuite en Argentine, aussi au Pérou. C'était compté sans la ligne 4.
Donc vous bravez...
Je chute au dernier, voilà, au dernier kilomètre.
Donc vous bravez les transports en commun, le décalage horaire pour être là avec nous. Donc c'est vraiment... Merci beaucoup. Oui, donc on était en train de se demander comment vous apportez votre savoir sur cette réflexion un peu que mène Madame Gentil dans le cadre de cette recherche. J'imagine que vos travaux, votre expérience permettent de nourrir cette réflexion méthodologique.
Oui, c'est-à-dire que en fait, le terrain, je le connais ou je le connaissais, puisque ce sont plutôt mes amours de jeunesse qui m'y ont conduit. Je le connais en aval et du point de vue chronologique et du point de vue géographique. J'ai travaillé sur les villes et sur les villes du Milanais à la fin du Moyen Âge. Donc l'eau en tant qu'elle venait du réseau artificialisé dont vous avez parlé, je la voyais arriver. Je la voyais arriver au XIVe, XVe siècle, alors que là, effectivement, c'est à plus haute, enfin, partir du XIIIe. C'est à partir de plus haute époque que les travaux de Louise Gentil saisissent ce phénomène. Mais ça reste quand même le même phénomène, c'est-à-dire la question de l'artificialisation des paysages, et avec sans doute, entre le moment où moi j'ai commencé à y travailler, c'est-à-dire sur des sources exclusivement textuelles et archivistiques, et ce que Louise vous a présenté, une inflexion majeure, qui sont effectivement la multiplication des sources, qui sont pas toujours concordantes d'ailleurs, l'archéologie et aussi également les sciences de l'environnement. Et donc, d'une certaine manière, le paysage devient à la fois plus contrasté et aussi plus précis. Ça, c'est du point de vue du terrain. Et du point de vue méthodologique, effectivement, moi, j'ai, d'une certaine manière, je pense devoir faire ici ce que je fais avec d'autres sujets, l'histoire du monde, l'histoire des femmes, l'histoire de la médecine, c'est-à-dire mettre en contemporanéité des savoirs historiens solidement constitués ou qui sont depuis longtemps de manière robuste dans le sens commun de la culture historique, et de les mettre en contemporanéité avec d'autres savoirs venus d'autres horizons disciplinaires. C'est un petit peu l'enjeu et du Collège de France et de ce programme ACD qui est accueilli. Et donc, la question de l'environnement, des humanités environnementales, qui donnera lieu effectivement à à une table ronde méthodologique, tu en as parlé déjà ?
Oui. Ouais.
Voilà. Ce qui est en jeu, finalement, pour nous, c'est de rendre un vocabulaire, qui est un vocabulaire commun, serviable à toutes et tous dans différentes disciplines, au-delà d'un certain nombre de malentendus. Voilà. Mm-hmm. C'est-à-dire que la transdisciplinarité, au fond, aujourd'hui, c'est un slogan, c'est une injonction de l'administration de la recherche, mais en réalité, elle n'est pas si aisée à pratiquer.
Oui.
Et pour nous, effectivement, l'histoire ne vaut que parce qu'elle pratique, pas parce qu'elle proclame. Voilà. Et pour aller vers la pratique, il faut s'assurer qu'on parle des mêmes choses avec les mêmes mots, ce qui n'est pas évident. Enfin, ce qui suppose effectivement de vérifier. Voilà.
Ouais.
Nous ne sommes pas en histoire, ou même d'ailleurs dans la plupart des disciplines ici convoquées, des sciences expérimentales, mais au moins peut-on faire des expériences de pensée, c'est-à-dire confronter non seulement nos vocabulaires et nos lexiques, mais nos méthodes, nos styles de recherche, nos terrains, et voir si effectivement, au-delà de l'effet d'annonce des slogans interdisciplinaires, il y a quelque chose à faire.
Ce sera ma dernière question. On l'a déjà un peu évoqué, mais est-ce que vous auriez quelques clés alors pour parvenir à une vraie interdisciplinarité ? Est-ce que vous auriez quelques idées ?
Alors, du point de vue intellectuel, oui, je crois, je pense. C'est-à-dire, encore une fois, ne pas se laisser éblouir, en fait, par une sorte d'illusion scientiste de la concordance des sources, parce qu'en réalité, lorsqu'on commence à s'accorder, il faut d'abord s'accorder sur nos désaccords. Mmh. Et les sources venues de disciplines et de méthodes différentes sont d'abord discordantes. Pendant très longtemps, par exemple au Moyen-Âge, le village des historiennes et des historiens n'était pas le village des archéologues. Et d'ailleurs, si on va à plus haute époque, à l'époque antique, on avait d'ailleurs coutume, en histoire grecque par exemple, d'opposer la cité des épigraphistes, la cité des archéologues et la cité des historiens. Et il faut du temps, en fait, pour les accorder. Et pour les accorder réellement, il ne suffit pas effectivement de dire qu'on a envie de le faire. Il faut le faire et aller au-delà d'un certain nombre de malentendus qui sont parfois effectivement dus au fait que chaque discipline veut faire des autres sa science auxiliaire, par définition, Voilà. C'est-à-dire que les archéologues disent oui, c'est intéressant, les historiens pour dater nos trucs, et inversement. Bon. Ça, c'est la première chose. Et l'autre chose, c'est qu'on se fait des illusions sur la scientificité des autres disciplines. Par exemple, aujourd'hui, les sciences de l'environnement, elles sont neuves, donc ce sont des épistémologies qui sont récentes, donc hypothétiques et fragiles. Voilà. Donc il ne faut pas prendre pour argent comptant des résultats qui viennent de des choses qui sont fascinantes. Le pollen, etc., ça c'est depuis bien longtemps éprouvé, mais des choses beaucoup plus expérimentales comme l'ADN sédimentaire. Si ça marche, c'est formidable, mais on n'en est pas encore sûr. Voilà. Ça, c'est du point de vue intellectuel. Et du point de vue, je dirais, opérationnel, institutionnel, il faut dire que nous sommes dans un système universitaire paradoxal où l'interdisciplinarité est théoriquement promue, mais rarement en fait, choisi.
Oui.
C'est-à-dire qu'à la fin, quand il s'agit de recrutement, et surtout de recrutement pérenne, hein, je ne parle pas des post-docs, de cette sorte de mercenariat européen flottant, dès qu'il s'agit de recruter des gens, alors là, on se rassure sur la robustesse des disciplines anciennes. Voilà, d'où l'intérêt, effectivement, de, quand je dis du temps, c'est du temps pour le dialogue, mais c'est d'abord du temps pour des recherches personnelles, ce que fait Louise actuellement. Voilà. Il faut laisser le temps. Et donc, l'intérêt de cet appel d'offres, je le dis au passage, c'est que il est quand même pas très contraignant. On choisit sur l'appel d'offres ACD, on choisit sur un dossier, puis ensuite on laisse le temps, sans nécessairement se croire obligé de vérifier tous les 3 mois, le temps à la chercheuse et au chercheur de chercher. Et chercher, ça veut dire s'égarer et se retrouver.
Donc on fait confiance. Il faut faire confiance.
Par définition.
Oui. Eh bien, merci beaucoup et à bientôt.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.